RESF, réseau Éducation sans frontières, sur fréquence Paris Pluriel 106.3.
C'est toujours sympa de dire merde. Hein. Les tests osseux sont d'un autre âge. Il te dit merde, mon cartilage. Les tests osseux sont d'un autre âge. Il te dit merde, mon cartilage. Les tests.
De 18h à 19h, vous êtes à l'écoute du RESF, le réseau Éducation sans frontières, sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 en FM à Paris et Île-de-France. Ou www.rfpp.net pour nous écouter en streaming partout ailleurs. Cette émission sera rediffusée mardi matin de 7h à 8h et très bientôt téléchargeable sur le site RESF à la rubrique radio. Alors pour y aller, c'est très simple, soit vous faites http://resf.info/radio ou plus simplement, vous vous arrêtez à resf.info et vous en profitez pour vous balader un petit peu sur le site et glaner toutes les infos que vous pouvez trouver, sans oublier de passer par la rubrique pétition, vous pouvez toutes les signer, et vous trouverez la rubrique radio un petit peu plus bas dans la colonne de gauche. Et bien sûr, vous pouvez écrire, nous écrire, hein, donc pour nous écrire, c'est soit vous écrivez à émission RESF, Radio Fréquence Paris Pluriel, 1 rue de la Solidarité, je répète, émission RESF, Radio Fréquence Paris Pluriel, 1 rue de la Solidarité, ou par mail à resf.fpp@gmail.com. resf.fpp@gmail.com. Et ça, pour nous dire tout le bien ou tout le mal que vous pensez de cette émission, nous demander des compléments d'information ou nous en apporter, nous demander de traiter tel ou tel sujet. Enfin bref, tout simplement, nous dire coucou, on aime bien recevoir du courrier et on se sent un petit peu moins seul. Et bien, si vous écoutez FPP, vous vous serez rendu compte que cette radio ne fait strictement aucune publicité. C'est un choix et c'est beaucoup plus agréable à écouter. Mais si on n'a pas besoin d'annonceurs, on a besoin des auditeurs. Alors si vous pouvez nous envoyer un petit chèque, de tout petit à très très gros, libellé à Association Paris, P-A-R-I-S, pour Programme Associatif Radiophonique d'Intérêt Social. Donc, vous pouvez nous envoyer un chèque ou nous faire un versement, un don en ligne sur le site de la radio, hein, http://www.rfpp.net. Et là, vous trouverez donc faire un don. Alors, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Nathalie et de Lily. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Bonjour Lily.
Bonjour.
Voilà, donc vous étiez déjà venu plusieurs fois ici. En général, vous venez très nombreuses, hein, puisque vous êtes là pour l'association ASMI et pour des raisons qui... plusieurs raisons, mais notamment... la dernière fois, il y avait 14 jeunes qui étaient là. Là, aucun des jeunes n'a pu venir, mais c'est, je crois, parce qu'ils sont...
En fait, il y a beaucoup de jeunes depuis qu'on s'est rencontrés. Il y a Lily, qui est quand même la présidente de l'asso, puisqu'ils l'ont élue, qui, elle, pouvait se dégager aujourd'hui de l'école. Dans le groupe, il y en a de nombreux qui ont été enfin scolarisés, donc tant mieux. Donc, en fait, ils sont en formation ou en cours, donc c'est plus compliqué pour eux. Et puis, il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont été envoyés un peu partout en province, et aussi des jeunes qui ont été rejetés et qui sont partis. Donc là, on est dans une configuration où il y a un nouveau groupe qui se constitue, mais c'est assez compliqué pour eux parce qu'entre ceux qui sont dehors et ceux qui sont à la CAMNA ou ailleurs et qui doivent toujours aller courir à droite, à gauche pour essayer d'avoir leur argent pour manger, etc., etc., il se trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, aucun n'a pu venir à l'heure. Donc ils s'excusent, hein, ça sera pour une prochaine
fois. Voilà, on les excuse et on les excuse tout à fait, puis on est très contents qu'ils soient, soit qu'ils aient du boulot, soit qu'ils soient au lycée, ou qu'ils soient en formation, qu'ils soient en apprentissage. C'était quand même un des buts de l'opération.
Tout à fait.
Voilà, et donc c'était au printemps dernier, je crois que c'était au mois de mars, hein, où vous étiez venu. Vous nous aviez annoncé la préparation d'un CD, les choses étaient encore un petit peu floues, et bien c'est fait. s'est enregistré et tout, et tout, et tout. Et puis il va sortir incessamment sous peu, avec en plus quelques clips qui sont, qu'on peut voir sur votre chaîne YouTube.
Sur la chaîne YouTube, ouais, c'est ASMI TV, ASMIETV en grand. Pour l'instant, il n'y en a qu'un, il y a J'ai 15 ans, mais il y en a d'autres qui sont en préparation. Ce qu'il y a, c'est que c'est assez long, mais on ne désespère pas. Et le CD, pareil, il a pris du retard, mais il devrait sortir là d'ici une quinzaine de jours maximum. Et être aussi téléchargeable et achetable en fait sur des plateformes. Donc ça, on le redira au fur et à mesure quand on sera sûr, mais c'est sûr.
Voilà.
On le dira sur nos réseaux.
Ouais, on le redira sur Facebook, donc Association de solidarité avec les mineurs isolés étrangers. Il y a aussi le blog, asmiblog@gmail.com. Il y a Insta maintenant, on est sur Instagram grâce à Lily et aux jeunes, parce que alors moi je n'y connais rien. Donc c'est association-asmi en petit. Et il reste donc YouTube, dont je parlais tout à l'heure, ASMI TV.
Voilà. Et on va revenir tout à l'heure pour parler plus en détail de ce projet et de l'ASMI et des jeunes donc jeunes isolés étrangers.
Qui ont entre 14 et 18 ans.
Voilà. Mais donc. Et puis on écoutera quand même en avant-première deux des titres de ce CD qui sont, ma foi, assez forts.
Chouette.
Mais donc avant tout, on va quand même présenter notre petit journal et on va revenir sur quelques expulsions ou tentatives d'expulsion de familles et d'enfants qu'on avait mentionnées la semaine dernière, et qui ont eu lieu à Amiens et à Toulouse. Sachant que chaque cas dont on parle, c'est les cas qu'on connaît, on en connaît très peu par rapport à tout ce qui se passe, et parmi ceux qu'on connaît, si on en parlait, si rien que les mentionner tous, je pense que ça prendrait toute la durée de l'antenne. Donc on a pris juste deux affaires, une à Amiens, une autre à Toulouse, mais qui sont tout à fait symboliques et représentatives de ce qui se passe ou de ce qui peut se passer maintenant. Et puis on dira un petit mot aussi sur la vente par la France de vedettes militaires à la Libye pour retenir les migrants. Alors je propose que tout de suite on écoute l'interview de Marcel Descarville, enregistrée hier depuis Amiens. On n'a pas pu la faire en direct parce que, RESF, on ne fait pas que causer à la radio, il y a aussi des permanences, il y a aussi un tas d'actions. Donc, on a enregistré hier. Donc tout de suite, Marcel Descarville. Hello Marcel Descarville, bonjour.
Bonjour Yves.
Tu nous appelles depuis Amiens et tu as de très mauvaises nouvelles de l'été à nous annoncer.
Oui, on a des mauvaises nouvelles de ta ville de naissance à M. Macron. Et évidemment, il considère qu'à Amiens, on doit appliquer, comme un peu partout en France, les modalités d'expulsion des personnes que lui considère comme indésirables. Alors que nous, on considère que chaque personne peut avoir une place. Et s'ils sont venus ici à Amiens, mais aussi en France, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance en eux et qu'ils veulent retrouver un peu de sérénité et de vivre et non pas, rester courir dans leur pays à cause de difficultés. Alors, on avait une famille, qui s'appelait Teresa et Vladimir Lekjegag, qui eux étaient venus d'Albanie suite à une vendetta. Phare, on peut le dire, avec leur fils Clévis. Phare dans le sens où cette famille était très bien intégrée ici, dans notre ville, participant à beaucoup d'activités, des activités ludiques, et très connues. Et on n'a pas compris ce qu'a voulu faire Madame la préfète de la Somme. Elle a cherché à les expulser en allant les chercher un beau matin de septembre, juste à la rentrée, à 6 heures, et finalement mis en centre de rétention pour un avion le lendemain qui était prévu, au grand dam d'ailleurs de la CIMA de Ménilamlot, parce qu'ils étaient en centre de rétention dans un premier temps, et à Ménilamlot, la CIMA, dernière association qui peut encore intervenir pour protéger les personnes, elle n'a pas compris du tout la manière dont ils ont été expulsés, c'est-à-dire en fait 8 policiers, 4 et 4 de chaque côté, Madame liée avec Monsieur au bras et à la cheville avec une chaîne. Voilà, ils ont été expulsés manu militari, on peut le dire comme ça. On a eu une seconde famille, la famille Isadjanian, une famille handicapée. Au 52e jour, la préfecture a estimé nécessaire d'arrêter le pointage et de les mettre à l'avion le jour même. Donc le pointage était à 7h30. Déjà nous-mêmes, on disait, oula, un pointage à 7h, 7h30, c'est pas forcément ce qui est le meilleur. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ils ont donc été chercher la petite à l'hôtel parce qu'elle n'avait pas encore démarré l'école. Il était 7h30. Et les parents qui étaient venus signer, eh bien, ils les ont emmenés avec la petite à Roissy. Ouais. Et à la faveur du téléphone, comme quoi parfois ça tient à un bout de ficelle, notre affaire, on a réussi à les convaincre de ne pas monter, parce qu'ils étaient très fragiles. Il suffit de pousser un tout petit peu, ils tombent par terre. C'est des familles handicapées. Eh bien, comment dirais-je, ils ont résisté. Ils ont été en centre de rétention. Et là, à la faveur d'une défense très coordonnée de la CIMAD, mais qui a été chercher des éléments auprès du défenseur des droits par rapport à la petite qui était aussi enfermée, et puis aussi le côté un peu déloyal d'une arrestation d'handicapés un peu ainsi. Sa famille a été libérée, la préfète n'a pas osé faire appel, et cette famille est donc revenue à Amiens. Alors ça c'est une belle chose, sauf qu'à Amiens, eh bien, la préfecture n'a pas voulu les reloger, évidemment. Parce qu'ils étaient déboutés du droit d'asile, bien sûr, en obligation de quitter le territoire, donc voilà. Et là, de fait, on s'est mobilisé pendant 2 mois, avec y compris les politiques, M. Manab, sénateur, Mme Pompili, députée, et aussi M. Ruffin, député aussi, pour dire qu'effectivement, on ne comprend pas comment ça se fait qu'on n'héberge pas cette famille, elle est revenue, elle est là. Et donc la préfète a décidé d'héberger, mais finalement cet hébergement qu'elle a donné, c'était un véritable piège. Parce que elle a demandé, elle a exigé qu'effectivement il dépose un dossier. Le dossier a été 48 heures plus tard débouté. Et 2 jours plus tard, 10 policiers ont tapé à la porte, même toqué, plus que toqué parce que la serrure était cassée, pour pouvoir récupérer la famille. Et heureusement, la famille n'était pas là parce que partie cherchait leur pain quotidien à la boulangerie. Et du coup, la famille n'a pas été attrapée. Mais là, on était très en colère parce que du coup, on a vu que ce logement qu'avait donné la préfecture, en termes d'hébergement à travers, je dirais, le 115, était finalement un piège. Et donc, tractation avec la préfecture quand même, pour savoir comment on allait continuer à être hébergé ainsi, pour cette famille en tout cas. Et ils ont promis qu'effectivement, ils n'iraient plus les chercher. À suivre, évidemment. Quoi. Donc là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, juste encore un autre élément, et on a une préfète très dure de ce côté-là, c'est qu'on a eu un père de famille qui a été aussi expulsé, et un autre père de famille également expulsé aussi. Donc, Gevorg, expulsé en Arménie, et Malkaz, expulsé en Géorgie. Donc, voilà l'été... son lot de difficultés que nous avons eues, du jamais vu quand même. Voilà. Alors, ceci dit, la préfète a vu une mobilisation quand même derrière ça, un mécontentement très fort, et du coup, elle a ouvert sa porte. On a donc une audience le 27 septembre. Donc, on espère que là, on va pouvoir reprendre le dossier de la famille Isadjanian. On va demander que la famille Lekjegag puisse revenir. Et puis, que les deux pères de famille ne soient pas séparés de leur épouse. Bon, on va le demander. Maintenant, est-ce qu'on va l'obtenir ? Pas sûr, mais on va le demander en tout cas.
Merci beaucoup. Marcel, peut-être tu as quelque chose à ajouter ?
Non, pour l'instant non. On en est là. Cet été a été quand même un peu difficile. On n'a pas eu un bel été, même s'il faisait bon.
Merci beaucoup Marcel. Et puis donc, bonjour aux amis de Amiens et de la Somme. Et puis on se retrouve à la fin du mois.
Au grand plaisir, en tout cas.
Eh bien, merci. Voilà, c'était donc Marcel Descarville, enregistré depuis Amiens hier matin. Nathalie, je te voyais réagir à ce qu'on écoutait.
Oui, je trouve ça terrible, mais de toute façon, l'été a toujours son lot d'histoires horribles. Et effectivement, il y a aussi des jeunes cet été qui étaient scolarisés, qui devaient faire leur rentrée scolaire comme l'année dernière, et qui se sont retrouvés eux aussi avec un appel du département qui les a rejetés. Ils n'ont pas été tenus au courant à temps, donc ils n'ont rien pu faire, et ils se retrouvent aujourd'hui, ils ont fait leur rentrée scolaire, ils sont scolarisés, mais ils sont à la rue. Donc oui, on sait très bien que tous les étés, malheureusement, ce genre de choses, il y a moins de gens, donc ils en profitent pour faire toutes les choses abominables qu'ils peuvent... Voilà.
Voilà, et ça on en reparlera tout à l'heure. Et tout de suite, on va écouter donc Annie Lapapi, du RESF de Toulouse. Hein, et là, il s'est passé des choses là aussi tout à fait stupéfiantes, où on voit que trois préfectures se mettent ensemble pour arrêter des gens et pour les envoyer en Albanie, en charter, de façon tout à fait expéditive. Donc tout de suite, donc Annie Lapapi, enregistrée ce matin, depuis Toulouse. Bonjour Annie. Annie du RESF 31 Haute-Garonne et tu nous appelles depuis Toulouse.
Oui, c'est ça. Bonjour.
Tu vas nous parler donc notamment et pas que d'un quelque chose d'assez énorme qui s'est produit au début du mois. Hein, il y a eu un charter qui est parti pour l'Albanie.
Effectivement, nous avons appris qu'un charter pour l'Albanie avait été organisé par trois préfectures. Ouais. Donc, celle de l'Haute-Garonne, Pyrénées-Orientales et Hautes-Pyrénées. Ouais. Et qui avait organisé une expulsion vers l'Albanie. Donc, où se trouvaient des familles avec 9 enfants qui ont laissé des chaises vides donc, le lendemain de la rentrée. Ouais. C'était des enfants qui ont fait la rentrée donc, le lundi, le 3 et le 4, ils étaient repartis puisqu'ils ont été arrêtés le lundi soir. Et le charter avait été affrété pour un décollage le mardi matin. Voilà, donc c'est des méthodes qui sont très brutales, bien évidemment, que l'on dénonce. Là, on est un peu... La communauté éducative est assez choquée de ces méthodes et bien entendu, nous, associations aussi, quoi. Ce que nous craignons, nous, aujourd'hui, c'est que quand on voit trois préfectures organiser des expulsions vers une communauté, notamment celle-ci, l'Albanie, là, on peut s'inquiéter de cette politique du rejet qui se met en place et qui est mise en place par le gouvernement de M. Macron. Voilà.
C'est quand même quelque chose qui est assez énorme, parce que 5 familles d'un coup sur 3 préfectures, et en plus donc avec des enfants, et des enfants qui ont entre 2 et 16 ans,
oui.
Des fratries, des enfants qui sont des jeunes majeurs, qui ont été séparés de leurs parents, qui eux sont restés, et en plus c'est énormément de moyens mis en jeu.
Oui, oui, oui. Écoutez, un enfant aujourd'hui... Il est réellement c'est de la chasse quoi. Moi je sais pas comment nommer les choses tellement qu'elles sont c'est des méthodes de chasse de familles entières et donc on fait subir ça aux enfants. Les enfants, moi je ne suis pas sûre qu'on ressorte indemne de méthodes comme celle-ci, quoi. C'est pas imaginable aujourd'hui, en 2019, qu'on puisse arriver à pourchasser des communautés, notamment albanaises aujourd'hui, comme je l'ai dit, mais il y avait eu avant l'été une communauté de Géorgiens qui avait un charter qui avait été aussi affrété, organisé toujours par la préfecture de Toulouse et d'autres préfectures. Donc, ces préfectures ont des ordres et puis l'État aujourd'hui doit pouvoir, il va falloir qu'il cesse ces méthodes de méthodes qu'on a déjà connues dans l'histoire. Moi je me dis, mais que retient-on de notre histoire, quoi. Nous, prochainement, novembre, on va fêter les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, mais Moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de venir faire de la représentation, de se pavaner quand on est capable en France de pratiquer, de faire ces choses-là ou d'être capable de faire ces choses-là à des enfants, quoi, et des familles entières, hein, quand on est à chasser, quand on s'assoit réellement sur le droit de circuler librement ou le droit de l'enfant, de protection que l'on doit apporter, nous, pays des droits de l'homme.
Parmi les choses qui me paraissent inquiétantes dans cette affaire, c'est d'abord le mode opératoire. Le mode opératoire est un petit peu particulier parce que souvent les arrestations ont lieu au petit matin. Là, les gens ont été pris le soir, ont passé la soirée, donc sont arrivés, si j'ai bien compris, au centre de au centre de rétention de Toulouse, à Cornebarieux, le soir, et repartis le matin, c'est-à-dire avant qu'aucune association ne soit là pour pouvoir assurer une défense.
Alors, ils sont arrivés effectivement le soir. Donc, l'équipe de la CIMADE du centre de rétention était partie. Ils ne les ont jamais croisés. Ils sont arrivés le matin. Bon, ça a été une expulsion expéditive qui, voilà, comme si on voulait cacher des irrégularités de procédure. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'est expéditif pour qu'on ne puisse pas, que l'équipe de la CIMADE à l'intérieur du camp ne puisse pas peut-être vérifier, les rencontrer ces familles, comprendre un petit peu les dossiers. Voilà, effectivement, c'est expéditif. Ouais. Et ça, on le remarque cette année, ça fait 2 fois, quoi.
Oui. À Toulouse, depuis le 1er janvier, il y a eu un certain nombre de familles et d'enfants qui ont été enfermés au centre de rétention.
Alors là, est repéré depuis le 1er janvier 2019 26 familles et 46 enfants qui ont été enfermés derrière les barreaux là. Donc oui, c'est on va dire que la France est un pays de l'Union européenne peut-être qui pratique le plus l'enfermement d'enfants avec leur famille, quoi. Voilà. Moi, je pense que ça a été déjà dénoncé. Bon, mais ça se passe à Toulouse, oui, aujourd'hui. Nous, jeudi dernier, suite à ce charter albanais, nous avons mobilisé autour du CRA, où nous avons eu l'heureuse visite d'un parlementaire, Emmanuel Monsieur Bompard, qui est venu en visite surprise. Et effectivement, il a relevé quelques conditions de vie, notamment le bruit parce que c'est proche d'un aéroport, le manque d'intimité. Et puis, un climat assez de détresse psychologique pour ceux qui y vivent dedans, quoi. Aujourd'hui, ce sont des prisons. Moi, appelons un chat un chat. Il y a des murs, il y a des grillages, il y a un toit grillagé aussi. Voilà, les jeunes, la PAF à l'intérieur peut nous dire oui, ils peuvent circuler librement. Non, c'est une liberté très restreinte, quoi. Et les enfants là-dedans, bon, ben voilà, on s'assoit effectivement sur le droit de protection que nous avons, que nous devons appliquer, quoi. Voilà. Pour cette politique aujourd'hui, voilà, on rejette, on ne pense pas les causes pourquoi les gens viennent, pourquoi ils quittent un pays. Moi, je ne crois pas qu'on quitte son pays quand tout va bien, quand on a un travail. Voilà, ce sont pour avoir rencontré des tas et des tas de familles, pour la plupart, bon, voilà, quoi, c'est des persécutions, c'est des menaces de mort, c'est de la misère. Voilà, moi je crois que le droit d'asile aujourd'hui est en train d'être enterré par cette politique, car on ne traite pas pourquoi les gens partent, quoi, et que le droit d'asile ici en France devient de plus en plus compliqué à déposer, ou nous, cette protection, on l'a de moins en moins.
Quelles que soient les raisons pour lesquelles on part, de toute façon, il y a la Convention internationale des droits de l'homme, hein, l'article 13, chacun est
Exactement.
libre de quitter son pays et de s'installer dans le pays de son
C'est ça.
choix.
C'est ça.
Si,
Il peut circuler librement, ouais, effectivement, de choisir sa résidence, tout à fait. Mais bon, voilà, nous en sommes plus là. Hein. Quand on voit ces pratiques-là, moi, je suis très inquiète, effectivement. Voilà.
Vous avez aussi, il y a aussi un lycéen qui est actuellement en rétention à Toulouse.
Alors, Oui, alors ce jeune lycéen, effectivement, il a, alors lui, il n'a pas fait sa rentrée, hein. C'était un enfant, c'est un jeune majeur,
Ouais.
d'avoir 18 ans. Et donc, il était scolarisé l'an dernier en première ES, où sur les matières scientifiques, il réussissait beaucoup.
Ouais.
Et bon, après, ça pêchait un peu plus, mais ça, peu importe. Donc, et après, cette année, il a eu une orientation sur un bac pro sur un autre lycée.
Ouais.
Un autre lycée qui lui a ouvert les portes, puisque c'était quand même un jeune qui rencontrait aussi un problème d'hébergement, qui a vécu la rue. Donc, un lycée qui lui a réellement ouvert ses portes, puisqu'il lui propose l'internat la semaine. Niveau restauration, voilà aussi, tout était plus ou moins bordé pour lui. Et là, voilà. Donc, là, aujourd'hui, il n'a pas fait sa rentrée. Il est au centre de rétention. Il est passé au tribunal administratif. Donc, on attend le délibéré. Et il est encore dans les murs du centre de rétention de Cornebarue. Voilà. Donc aujourd'hui, sa place, bien évidemment, elle est sur les bancs de l'école, elle est dans sa continuité de sa formation scolaire. Elle n'est pas. Voilà, donc nous, on défendra le fait qu'il rejoigne ses camarades, quoi, hein, en tant que lycéen, et qu'il puisse avoir une vie tout à fait ordinaire de lycéen, et non pas de peur. De répression, de tension, ou privé de liberté, quoi.
Et je crois qu'il y a une pétition qu'on peut signer sur le site RESF qui est, donc on peut trouver très vite sur le
Oui.
site resf.info et sur la rubrique pétition individuelle.
Voilà, c'est ça. Après, y a aussi, nous, on avait appelé à soutien au tribunal administratif, donc il y avait des personnes de son ancien lycée qui étaient venues le soutenir. Hein. Donc, il y aura encore des possibilités Après, il y a des visites au CRA qui sont possibles pour aller le rencontrer aussi. Bon, aujourd'hui, là, c'est un jeune qui est très inquiet, quoi. Il mesure à peine maintenant ce qui va se passer pour lui, quoi. Les risques qu'il encourt, chose qu'il ne maîtrisait pas, enfin qu'il ne mesurait pas au départ quand il a été interpellé, mais là aujourd'hui il craint il craint. Donc c'est pas possible ça à 18 ans de vivre des situations comme ça, quoi. Là il faut se poser, il faut que cette politique de Monsieur Macron, je sais pas, il va falloir que ça cesse, qu'on puisse réfléchir à comment on accueille ces personnes et comprendre pourquoi ils partent, le choix qu'ils font, quoi. Quand je vois Monsieur Macron encore hier sur qui sort l'étendard sur l'immigration, ou je sais pas, on peut penser que soit il est en baisse dans les sondages, ou alors les élections sont très proches. Bon, là, moi, je me dis que quand il a des discours prétendant d'être humaniste, on est parfois trop laxiste. C'est des brèches réellement ouvertes pour l'extrême droite. Voilà. Donc ça, c'est très inquiétant parce que déconstruire derrière ces idées, association ou personne lambda, c'est boucher double, quoi. Puis nous, on continue à dénoncer donc l'enfermement d'enfants dans les centres de rétention, et puis enfermement tout court, quoi. Parce que enfants, d'accord, mais après tout ce qu'on peut, quoi, la vie dans ce centre de rétention aujourd'hui, voilà, quoi, c'est l'enfermement tout court. Bon, je crois qu'ils ont vécu suffisamment de choses pénibles pour ne pas en vivre ici. Donc, la fermeture des centres de rétention, oui.
Merci beaucoup Annie. Et puis s'il y a des nouvelles, eh ben tu nous rappelles, il n'y a pas de problème.
D'accord.
Et l'antenne de radio RESF, hein, RESF sur FPP et de Fréquence Paris Pluriel, était évidemment grande ouverte.
Très bien, mais merci à vous.
Voilà, merci et puis à très bientôt. Au
Au revoir.
revoir.
Au revoir.
toujours à l'écoute de RESF, un réseau éducation sans frontières, sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net, pour nous écouter en streaming partout dans le monde. Et on vient d'écouter donc Annie Lapapi du RESF, RESF de Toulouse. Et je propose qu'on fasse une première petite pause musicale avant de continuer sur des éléments qui... Bon, sur un communiqué commun de plusieurs associations à propos de la vente des bateaux français à la Libye. Et donc, tout de suite, on écoute J'ai 15 ans, qui est extrait de l'album fait avec les jeunes.
Voilà, de la SMI.
J'ai traversé la mer sans savoir nager.
Sans savoir nager.
Mes compagnons sont morts, je veux juste oublier.
Juste oublier.
Parce que ton pays peut me laisser grandir en sécurité. Gage-toi au choix. Moi suis tout comme toi. Qu'on va me respecter, m'aider à devenir, m'aider à respirer, me laisser me vanter. J'ai 15 ans, je suis là, je cherche un futur, je cherche une voie.
J'ai 15 ans, je suis là, je cherche un futur, je cherche une voie.
J'ai 15 ans sans parents, arrivé à pied, je suis fatigué.
J'ai 15 ans sans parents, arrivé à pied, je suis fatigué.
Regarde autour de toi, nous sommes là, tu nous vois.
Tu nous vois.
Je veux ce que tu peux manger, dormir au chaud, apprends tout comme toi. Espérer un futur, espérer être heureux malgré ce que j'ai vu, malgré ce que j'ai fui. Quand j'ai quitté les miens, je n'avais pas le choix. Veux-tu me respecter, m'aider à devenir, me laisser m'inventer. J'ai 15 ans, je suis là, je cherche un futur, je cherche une voie.
J'ai 15 ans, je suis là, je cherche un futur, je cherche une voie.
J'ai 15 ans sans parents, arrivé à pied, je suis fatigué.
J'ai 15 ans sans parents, arrivé à pied, je suis fatigué.
Allez viens,
allez viens,
rejoins-moi, j'ai besoin de tout, j'ai besoin de toi,
j'ai besoin de toi.
Allez viens,
allez viens,
allez viens,
allez viens,
rejoins-moi, j'ai besoin de tout, j'ai besoin de toi,
j'ai besoin de toi.
Allez viens,
allez viens,
rejoins-moi, c'est facile pour toi de me donner la joie,
de me donner la joie.
Allez viens,
allez viens,
rejoins-moi, c'est facile pour toi de me donner la joie,
de me donner la joie.
Dans ce pays, c'est là j'ai envie de garantir, j'ai envie d'avoir le choix,
d'avoir le choix.
Allez viens,
allez viens.
On est là, on n'est pas invisible, on est jeune, tout comme toi.
Tout comme toi.
Allez viens,
allez viens.
Allez viens,
allez viens.
Allez viens,
allez viens.
On est là, on n'est pas invisible, on est jeune, tout comme toi.
Tout comme toi.
Allez viens,
allez viens.
On y va, on s'étend la main, on est vent demain.
On s'étend la main,
on est vent demain.
On s'étend la main, on est vent demain.
On s'étend la main,
on est vent demain.
On s'étend la main.
J'ai 15 ans, je suis là, je cherche un futur, je cherche une voie.
J'ai 15 ans, je suis là, je cherche un futur, je cherche une voie.
J'ai 15 ans sans parents, arrivé à pied, je suis fatigué.
J'ai 15 ans sans parents, arrivé à pied, je suis fatigué.
J'ai 15 ans, je suis là, je cherche un futur, je cherche une voie.
J'ai 15 ans, je suis là, je cherche un futur, je cherche une voie.
J'ai 15 ans sans parents, arrivé à pied, je suis fatigué.
J'ai 15 ans sans parents, arrivé à pied, je suis fatigué.
Toujours à l'écoute de RESF sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 Paris et proche banlieue, et on vient donc d'écouter J'ai 15 ans, réalisé, enregistré, écrit par les jeunes de la SMI. C'est très chouette, on va tout de suite en reparler, mais avant quand même une petite chose que j'ai appris non, parce qu'on savait déjà, c'est que la France livre des bateaux militaires aux gardes-côtes et à l'armée libyenne. Donc il y a plusieurs associations, dont Logistie, Migre Europe, Médecins sans frontières, la CIMAD, l'AFDH et ASG, hein, qui est une association italienne, qui lance des actions pour éviter que cette vente ne se fasse, hein, puisqu'il faut dire que ces vedettes ne serviront jamais à ramener des migrants à la côte ou à sauver, mais à faire du contrôle. Ces associations donc viennent de publier un communiqué que j'ai appris, enfin je l'ai reçu juste avant de venir à la radio, hein. Donc je vais le lire, hein. La punité pour les actes du gouvernement jusqu'à quand ? Livraison des bateaux à la Libye, le juge se dérobe. Alors en février dernier, Florence Parly, ministre des Armées, a annoncé l'achat par la France de 6 embarcations rapides au profit de la marine libyenne pour faire face au problème de l'immigration clandestine. Il s'agit de donner aux gardes-côtes les moyens d'intercepter en mer les migrants qui tentent de traverser la Méditerranée et de les ramener dans l'enfer des centres de détention où tous les témoignages nous rappellent qu'ils subissent les pires sévices. En fournissant aux autorités libyennes les moyens matériels de garder sous leur emprise celles et ceux qui cherchent protection en Europe, la France se fait donc complice du cycle de violation des droits humains commis dans ce pays. Pour s'y opposer, 8 associations ont demandé au tribunal administratif puis à la cour administrative d'appel de Paris de suspendre l'exécution de la décision de livrer ces embarcations. Assurant une véritable immunité au gouvernement, ces juridictions se sont déclarées incompétentes pour contrôler une décision qui ne serait pas, entre guillemets, détachable de la conduite des relations extérieures de la France, fin de guillemets, et relèverait par conséquent de la catégorie des actes du gouvernement que le juge administratif ne serait pas habilité à contrôler. Cette déclaration d'incompétence générale, fondée sur la théorie des actes du gouvernement, est inacceptable à double titre. D'abord parce qu'elle met les décisions qui en relèvent hors d'atteinte de tout contrôle juridictionnel, même lorsque ces décisions peuvent entraîner ou favoriser, comme c'est le cas ici, la violation de droits fondamentaux et notamment du principe du non-refoulement des demandeurs d'asile. Échappe de même à toute censure des décisions de livraison de matériel militaire prises en méconnaissance flagrante des embargos décrétés par l'ONU que l'Union européenne peut sanctionner. Des livraisons de matériel militaire prises en méconnaissance flagrante des embargos décrétés tant par l'ONU que par l'Union européenne pour sanctionner la Libye. Ensuite, parce que la notion d'acte de gouvernement ne fait l'objet d'aucun encadrement légal, de sorte que les juges administratifs peuvent l'utiliser à leur guise pour se dérober à leur mission de contrôle, sitôt que le gouvernement pourrait être mis en difficulté par la dénonciation d'une décision particulièrement choquante. De fait, ils ne s'en privent pas, notamment en matière de conduite de relations extérieures de la France, comme l'ont révélé d'autres décisions d'incompétence récemment rendues sur le même fondement. Celle, par exemple, rendue le 23 avril 2019 par le Conseil d'État, refusant d'ordonner le rapatriement des ressortissants français et de leurs enfants retenus en Syrie, ou encore celle rendue par le tribunal administratif le 9 mai dernier, sans procédure dirigée contre les autorisations de sortie douanière délivrées par les autorités françaises pour les armes vendues à l'Arabie Saoudite et qui, d'après les révélations des médias, sont utilisées contre des civils dans la guerre au Yémen. Le Conseil d'État belge n'a pas eu la même complaisance à l'égard du gouvernement. Il a annulé le 14 juin dernier des licences d'exploitation d'armes wallonnes vers l'Arabie Saoudite, faute notamment d'un examen minutieux des questions des droits fondamentaux au royaume wahhabite. Il est temps que les juges administratifs français se hissent au même niveau d'exigence et cessent de s'abriter derrière une théorie rétrograde pour refuser de sanctionner des décisions méconnaissant gravement les droits humains au prétexte qu'elles relèveraient de tractations avec des autorités étrangères. C'est pourquoi les organisations qui ont engagé le recours contre la livraison de bateaux à la Libye persistent dans leur procédure. À défaut de suspension de cette décision, elles maintiennent leur demande d'annulation. Dans ce cadre, elles ont d'ores et déjà saisi la Cour administrative d'appel de la question de la constitutionnalité du texte fondant l'incompétence des juges administratifs en matière d'actes du gouvernement. Elles ne relâcheront pas leurs efforts pour qu'il soit mis fin à une impunité qui passe par perte et profit les traitements inhumains connus de tous que les migrants subissent en Libye. Voilà, et donc c'est signé de Médecins Sans Frontières, GESTI, Ligue des Droits de l'Homme, CIMAD, Migre Europe, l'ASJ et encore d'autres associations. Voilà, donc de quoi la France se rend plus que complice.
Oui, enfin, la France vendait aussi des armes en Libye, non ? Donc, ça fait un petit moment.
Oui, déjà, bah, c'est une vieille histoire, mais ça, on en reparlera certainement. Et maintenant, donc, on va tout de suite parler de ce que fait la SMI. Déjà, nous expliquer aussi donc, la première chanson de ce CD qu'on vient d'écouter tout à l'heure, la chanson suivante, ce que fait la SMI, comment vous faites, et pourquoi, mystère, il n'y a aucun jeune... Enfin, il y a une jeune quand même qui est là, et alors que la dernière fois, eh bien, le studio avait été rempli avec 14 jeunes et ça avait été très compliqué de donner la parole à tout le monde. Lily, donc tu es la présidente.
Oui, donc j'explique ce que c'est l'association.
Oui.
Donc du coup, l'association, c'est une association pour aider les mineurs isolés étrangers. La spécificité, c'est que c'est par eux pour eux, donc chaque décision de projet ou quoi que ce soit, c'est en réunion, en vote et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment eux qui... Donc le but, c'est qu'en fait, ils prennent leur parole et qu'ils, bah, par des projets artistiques, ils puissent en parler en fait. Donc on fait de la cuisine, on fait des cours de français, des cours d'anglais, là on a ce projet de CD, on a plein d'autres projets aussi après qu'on aimerait faire, on fait beaucoup d'art plastique, et voilà.
Voilà, et aussi donc des travaux d'écriture, parce que on avait lu ici des textes et des textes collectifs que les gamins avaient écrits.
Oui, ça, enfin, en fait le CD il vient d'un an d'atelier d'écriture qu'on a fait, où on écrivait nos textes et tout ça, et après, du coup, on a fait notre CD avec ces textes-là.
Voilà, et Nathalie, donc ?
Oui, mais c'est ça, c'est qu'en fait, les jeunes, pour apprendre le français, il y a plein de façons de faire, mais comme l'idée de la SMI, c'était aussi comment faire pour se restaurer et réexister en tant que personne, alors que ces jeunes arrivent, comme tu parlais tout à l'heure de la Libye, tous les jeunes qui passaient par la SMI au départ sortaient de l'enfer libyen, en fait, et étaient de vrais survivants, parce qu'effectivement, ils avaient été torturés, ils avaient vu des jeunes mourir avec eux, enfin, etc., etc. Arrivés ici, ils pensaient être sauvés, et ils se faisaient automatiquement nié et traité de menteur. Et donc l'idée, c'était comment faire pour monter quelque chose qui puisse les aider à se remettre debout et à dire, on est là, on existe, et maintenant qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait ? Mais on est là, vous pouvez pas ne pas nous voir. Et donc on avait commencé par l'écriture, parce que ça permettait à des jeunes qui savaient déjà pas mal s'exprimer, de prendre la plume et d'aider aussi, parce qu'on travaille beaucoup comme ça, d'aider ceux qui savaient pas parler ou écrire en français, en traduisant, etc., pour que tout le monde puisse avoir la parole et s'exprimer. On voulait pas du tout faire du sensationnel, parce que l'idée, c'était pas du tout, comme font certaines personnes, de demander à un jeune d'ouvrir ses tripes et de prendre son histoire et de la mettre en avant avec tout ce que ça comporte d'horrible. Là, on voulait que ça soit quelque chose de collectif, pour que justement chacun puisse y mettre ce qu'il avait envie d'y mettre, que ça puisse être représentatif d'un parcours, alors qu'en fait, il y a 88 jeunes, je crois, en tout, qui ont participé à ce CD. Et ensuite, on s'est dit, on a commencé à lire ces textes a cappella, ce qui était aussi une prouesse, parce que lire devant des gens comme ça, en groupe, c'est plus facile que tout seul, mais c'est quand même quelque chose d'assez difficile, mais qui permet aussi de grandir, de devenir autonome et de pouvoir savoir prendre la parole. C'est quelque chose d'important dans la vie de tous les jours. Donc tout ça, c'était... Et on s'est dit petit à petit, en lisant ces textes, que ça serait vraiment super de pouvoir les mettre en musique. Et de pouvoir faire un CD, on savait même pas si c'était possible, mais au moins une bande-son, et de fil en aiguille. C'est très long parce que on est une petite structure, on n'a pas de sous, voilà. Et on a mis un an, en fait, à réussir à trouver le musicien, donc Cécile de Kadavrexki, qui est beatmaker et qui a mis en musique ce qu'on avait déjà écrit, ce que les jeunes avaient écrit. Donc pour lui, ça a été compliqué parce qu'il a fallu faire quelque chose d'inverse à ce qui se fait d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a d'abord eu l'écriture, et ensuite, nous, on avait sur certaines choses trouvé des flots, et il y avait des morceaux où on n'avait rien trouvé du tout. Et donc, on a tous travaillé ensemble, mais lui, il a dû remettre en musique, alors que normalement, on fait l'inverse, on fait d'abord la musique pour coller un texte dessus, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, donc du coup, tout le monde y a mis du sien, on a tous donné le meilleur de ce qu'on pouvait, et ce CD va voir le jour d'ici une quinzaine de jours maintenant, et on est hyper contents. Voilà. Et les jeunes ne sont pas là aujourd'hui parce que beaucoup ont été scolarisés ou sont repartis en province sous le coup de la répartition nationale. Hein, ils n'ont pas vraiment eu le choix. Ouais. Et puis certains ont disparu parce que, qui dit jeune à la rue dit grosse problématique. Et pour des jeunes, quand on sait qu'aujourd'hui, il y a au moins un an d'attente, ou 8 mois en tout cas, avant de voir un juge, on comprend bien qu'il y en a plein qui craquent et qui repartent et qui essayent d'autres endroits, en fait.
Oui, qui est ça. Et ce que tu disais donc à propos notamment de ce texte collectif dit a cappella qu'on avait essayé de faire de façon semi-improvisée ici. De tête, je dirais que c'est l'émission qu'on avait fait ensemble au mois de mars, mais c'est peut-être un peu plus ancien. Et en discutant avec eux, donc il y avait quelques-uns qui se, tout d'un coup, s'étaient mis à parler sans qu'on essaie de les faire parler plus que.
Et oui, bien sûr. Oui, je pense que ça. Alors ça, c'est différent. C'est-à-dire que les jeunes à l'époque, c'était pas en mars dernier. C'est quand on était venu un an encore avant.
Ouais.
Et là, les jeunes venaient d'arriver en France. Mm-hmm. Donc effectivement, il y a des jeunes dès qu'ils se retrouvaient dans une ambiance où ils se sentaient à l'aise et dans une ambiance de groupe, ils avaient besoin de dire des choses. Là aujourd'hui, les jeunes qu'on rencontre, ça fait déjà plusieurs mois, voire même une année, qu'ils tournent sur la France. Enfin, sur Paris, en tout cas, sans être pris en charge, rejetés ou repris d'hôtel en hôtel. Enfin, c'est toujours extrêmement compliqué, mais du coup, ils ne sont plus du tout dans la même dynamique. Mm-hmm. Et du coup, aujourd'hui, ils ne sont plus du tout non plus dans les mêmes envies et dans le même. Ils ne vont pas raconter comme ça leur histoire, puisqu'ils se sont déjà rendu compte qu'ici, on ne veut pas d'eux. Et toute cette exaltation et ce besoin de raconter et de se livrer, il est encore plus enfoui, parce qu'aujourd'hui, c'est la survie au quotidien. Il faut tenir, il faut encore moins faire confiance. Enfin, je pense que c'est très compliqué.
Oui, et puis peut-être là, ça serait intéressant d'en parler avec un psychologue ou un psychothérapeute. Mais c'est des jeunes qui ont vécu de tels traumatismes et qui racontent très simplement, mais qui, quelque part, donc on refuse de les écouter, de les comprendre, et ça amène à refouler certainement, enfin je dis ça, c'est de la psychologie de bazar, mais à refouler des sentiments, des paroles, des expressions, et ça devient très compliqué.
Bah, je pense qu'il y a ça, c'est vrai qu'il faut des professionnels derrière pour suivre ces jeunes au niveau psychologique, et qu'il n'y en a pas en fait. Donc effectivement, je pense qu'il y a un moment où on se dit, si on veut tenir, enfin moi c'est le retour que me font les jeunes, hein. Ils disent que s'ils veulent tenir, bah, y a des choses qu'il faut enfouir encore plus profond, sauf qu'on sait aussi qu'un jour ces choses elles vont sortir, parce que ces choses elles ont été vécues, donc de toute façon elles ne peuvent pas se gommer, et c'est toute la problématique de comment ils vont pouvoir se construire. Et je pense que justement ouvrir une fenêtre qui est une fenêtre de libre expression, où on peut par le biais du chant ou du théâtre ou de tout ce qu'on peut monter comme action, qui est de pouvoir s'exprimer et dire ce qu'on veut en groupe, c'est très important, parce que ça permet effectivement de tenir, de continuer à se construire malgré tout ça, on va dire. Mais ça ne suffit pas, bien évidemment, on ne remplacera jamais un psy, et c'est pas du tout le propos de l'association, quoi.
Voilà, ça c'est sûr. Et donc moi j'étais content qu'on fasse cette émission ensemble, et je me disais que les jeunes qui allaient venir, c'était des jeunes qu'on avait déjà rencontrés ici, pourraient nous raconter où ils en sont. Mais finalement,
émission.
Il y en a pour qui les choses se sont tellement bien passées ou tellement peu mal passées, enfin se sont bien passées en tout cas, et ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. C'est en partie au moins, c'est-à-dire que soit ils sont scolarisés ou ils sont en apprentissage, et finalement ils sont en train de faire ce qu'ils voulaient faire il y a quelques mois et ce qu'ils n'arrivaient pas à faire.
Ouais, sauf que ça, pour en arriver là, c'est un travail collectif toujours, et c'est le travail de la SMI entière, parce que s'il n'y avait pas eu ce groupe et ce travail collectif, ils n'auraient jamais été scolarisés. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est injuste, et que et à quel point c'est du cas par cas. Et il faut absolument réussir à tisser des liens avec des gens qui savent ce qu'il faut faire. Alors, de bons avocats, de bons profs, un bon recours juridique. Enfin, tout ça, ça ne s'improvise pas. Et encore une fois, effectivement, ces jeunes, s'ils sont tout seuls, vraiment complètement livrés à eux-mêmes, c'est quasiment impossible aujourd'hui d'aller à l'école et d'avoir une formation digne de ce nom.
C'est impossible. Il y a malheureusement pas mal de gens qui pensent que leur indignation va être suffisante pour convaincre n'importe qui. Et ça, ça ne marche pas. Ce sont des procédures administratives.
Oui.
Et si on n'est pas parfaitement dans les clous, d'une part sur au niveau de la procédure administrative, d'autre part au niveau de la mobilisation de tout ce qu'on peut, toutes les forces qu'on peut mobiliser, y compris aller, c'est là où on s'était rencontrés d'ailleurs, devant le Conseil d'État avec chanter avec HK. Mais si on improvise sur la base de son indignation, en se disant « mais c'est pas possible, la France c'est un pays de droit et ça ils ont pas le droit de faire ça », et convaincre un juge ou convaincre un préfet à partir de cet argument, ça marche pas.
Non. Bah, ça marche pas, c'est assez dramatique. Et puis même quand bien même il y a certains jeunes qui ont enfin réussi effectivement dans le groupe de l'année dernière à être scolarisés, à faire des formations, à faire ce qu'ils voulaient. Et puis il y en a aussi qui ont été victimes d'appels, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent à aller à l'école tous les matins, mais à plus savoir où dormir, à tourner de lieu en lieu avec la rue. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Et ça, franchement. Voilà, il y a des choses où on n'est pas magicien, où il y a des lois qui sont de moins en moins appliquées et puis de nouvelles lois qui sont de plus en plus terribles, qui se greffent par-dessus. Ça devient un parcours du combattant qui est... Enfin, je comprends même plus, en fait, où la France veut en venir dans ce qu'elle est en train de mettre sur pied, parce que ce sont que des injonctions contradictoires. Plus personne s'y retrouve, que ça soit même les éducateurs, quand il y en a. De toute façon, un éducateur qui a 100 jeunes dont il est censé s'occuper, on voit difficilement comment techniquement ça peut être possible, et on se rend tout de suite compte de ce que ça va donner derrière. Ça veut dire qu'un jeune malade, l'éducateur peut pas tout arrêter pour l'accompagner à l'hôpital, puisque derrière, il y en a 99 autres avec lesquels il est censé faire des choses qu'il ne fait pas parce qu'il n'a pas le temps. Donc la question qu'on peut se poser, c'est d'une part, pourquoi les gens continuent à travailler dans ces conditions ? Parce qu'il y a un moment où si on est soi-même en souffrance au travail, il faut peut-être dire stop. Je me pose tout un tas de questions. Les jeunes également, et c'est un peu dommage qu'ils ne soient pas là aujourd'hui, parce qu'effectivement, ils ont de plus en plus de questions qui se posent en se demandant vraiment à quoi tout ça rime et où on veut en venir, parce que oui, donc on refera une émission à un moment où il y en a quelques-uns qui pourront venir, parce qu'ils sont toujours enchantés. Hein.
Le micro vous est ouvert quand vous voulez.
Merci.
Au moins dans le credo de l'émission.
C'est ça, alors Lily parle du CD, parle du projet, donc ce CD, raconte-nous combien il y a de titres, vas-y, t'as écrit dedans, tes copains aussi, alors vas-y.
Alors déjà le CD il s'appelle On m'a vendu du rêve. Il y a 21 titres dedans. Et en fait déjà la particularité c'est que les textes qu'on a dit dedans, c'est pas forcément les textes qu'on a écrits, parce que on trouvait que c'était mieux pour quand c'est trop dur, on dit est-ce que tu peux le faire à ma place, etc. Et du coup, c'est ça qui est bien. Comme ça, tout le monde a pu mettre son texte, même s'il n'a pas voulu le dire. En tout cas, quelqu'un d'autre l'a dit et il y a quand même son texte dedans, en fait. Donc, c'est ça qui est bien. Et après, voilà.
Y a des morceaux collectifs qui ont été écrits tous ensemble. Et puis, il y a aussi des morceaux que chacun a écrit, ceux qui se sentaient plus à l'aise directement avec l'écriture. Il y a des jeunes qui ont écrit directement leur texte. Et où là, il y a juste eu à corriger les fautes, c'est tout. Après, il y a des morceaux où plus...
Il y en a, ils ont dit des mots. Ils ont dit juste des mots. Il y en a, ils ont dit des phrases parmi d'autres phrases. Et voilà, après, ça, on a tout mis ensemble et on a trouvé les rythmes ensemble. Enfin, on a tout fait ensemble, quoi. Donc,
Et donc, avant de passer à l'autre agenda, on pourrait peut-être écouter maintenant « On m'a vendu du rêve ». Qui est le titre d'un morceau et qui est aussi le titre du CD, ouais. Le titre de l'album. Donc, on m'a vendu du rêve.
Vendé, mais je ne savais pas. J'ai fait confiance aux belles images qu'on m'avait vendu de l'Europe. On m'a vendu du rêve.
On m'a vendu du rêve.
J'ai voulu un avenir. On m'a traité de menteur. Pas besoin de vous le dire si je ne veux pas y repartir. Je suis mineur, même si ça vous fait peur. On m'a vendu du rêve.
On m'a vendu du rêve.
En grandissant, je m'aperçois que plus tu grandis, moins tu souris. On m'a vendu la vie en France comme un avenir si joli, formidable. Avec fait un rêve, on m'a vendu du rêve.
On m'a vendu du rêve. Comme on est déjà là, il faut s'adapter. On m'a vendu du rêve, mais je vais y arriver. Comme on est déjà là, on va s'adapter. On m'a vendu du rêve, mais je vais y arriver.
Je n'avais jamais voyagé, je suis devenu aventurier. Arrivé en France, errance, perdu dans les rues de Paris. Je me sens seul, et je le suis. Complètement désorienté. N'est pas tombé, n'est pas hurlé. La gorge ne m'a pas gardé. Je vois des gens marcher nul pied. Jamais personne à leur côté. On m'a vendu du rêve.
On m'a vendu du rêve.
5 mois plus tard, c'est encore moi. Toujours dehors, me revoilà. Je coule les rues, livré à moi-même. Je navigue à vie, pas le temps d'avoir de la haine. Il veut juste une trêve à ma vendée du rêve.
On m'a vendu du rêve.
Comme on est déjà là, il faut s'adapter. On m'a vendu du rêve, mais je vais y arriver. Comme on est déjà là, on va s'adapter. On m'a vendu du rêve, mais je vais y arriver.
Rien n'est donné ici. Tu as des droits, tu y crois, et hop. Toujours dans la survie, je me dis rien n'est donné en Europe. C'est comme au pays, il faut toujours se battre. Comme en Afrique, je veux mener ma barque. Mais la vie Europe me rattrape, et même vos qualités, je les vois pas. Je veux les retrouver, les éprouver, m'en entourer. Je veux pleurer et pas crever. J'ai 14 ou 15 ans, tu fais des tests sur mes dents comme si j'étais un cheval que tu vas vendre sur un étal. Tu veux des preuves, tu dis m'aider, tu ne sais pas me respecter. Tu penses encore l'Européen supérieur aux petits Africains. Tant pis pour nous, tant pis pour vous. L'Europe et ses qualités, ses règles, ses lois non respectées. Je n'ai aucune liberté, je suis là sans rien, je tiens. Tu me traites même pas comme ton chien. On m'a vendu du rêve.
On m'a vendu du rêve.
Comme on est déjà là, il faut s'adapter. On m'a vendu du rêve, mais je vais y arriver. Comme on est déjà là, on va s'adapter. On m'a vendu du rêve, mais je vais y arriver.
J'ai vu mourir dans le désert, pas d'eau. J'ai vu mourir parfois mon frère. Tu dis que c'est faux. J'ai traversé la Méditerranée. Celle-là même dont les plages t'accueillent. Quand tu pars en vacances, te reposer dans son lit, tu te laisses porter sans même penser à cette même meurtrière. Tombeau pour mes frères, père, mère, les cauchemars. La nuit me réveille, je me revois dans ce bateau. Beaucoup de morts qui me hantent pour arriver dans ton pays dont j'avais tant rêvé, où l'homme nous laisse dormir dehors. Mal accueilli. Liberté, égalité, fraternité ne sont pas au niveau. On m'a vendu du rêve.
On m'a vendu du rêve.
Comme on est déjà là, il faut s'adapter. On m'a vendu du rêve, mais je vais y arriver. Comme on est déjà là, on va s'adapter. On m'a vendu du rêve, mais je vais y arriver. Comme on est déjà là, il faut s'adapter. On m'a vendu du rêve, mais je vais y arriver. Comme on est déjà là, on va s'adapter.
Alors vous êtes toujours à l'écoute de RSF sur FPP 106.3 et bravo aux jeunes de la SMI qui ont fait ça, qui ont écrit cet album. On m'a vendu du rêve et je crois qu'il va y avoir un concert samedi, Lily.
Oui, il y a un concert donc le samedi 21 septembre à partir de 20h, on fait un concert du coup, à la gare XP, donc c'est 18 boulevard Serrurier, c'est métro Mairie des Lilas, Porte des Lilas, et donc voilà. Et c'est avec Kadavreski, donc en fait on est en première partie, et Kadavreski bah, c'est le beatmaker qui a fait tout notre CD, donc voilà.
Voilà, donc on va tous se retrouver là-bas, et c'est donc une façon de... Nathalie ?
Bah oui, c'est une belle manière de prendre la mesure de tout ce travail qu'ils ont fait, de diction, de tout, pour donner vie à ce CD.
Voilà, donc on va tous se retrouver samedi 21 à 20h à la gare XP, hein, 18 boulevard Serrurier, au métro Porte des Lilas. Et bah, sinon, donc, notre agenda quand même, donc ça c'est samedi 21, hein, bah, en guise d'agenda qui est très court, hein, tous les jours, donc lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, etc., et donc on se retrouve en soutien aux travailleurs de Chronopost à Alfortville, hein, tous les matins. Donc tous les soutiens sont bienvenus, c'est deux chemins de Villeneuve-Saint-Georges, donc à Alfortville. Et bien donc samedi on ira à la gare XP, et dimanche 22 à 17h il y aura un rassemblement la plus important avec projections, débats, etc. Donc toujours en soutien à Chronopost à Alfortville. Je répète l'adresse, c'est deux chemins de Villeneuve-Saint-Georges. vendredi 20, donc avant tout ça, ce sera le Cercle de Silence de Paris, devant le Conseil d'État, place du Palais Royal, hein, au métro Palais Royal ou Musée du Louvre. Mardi 24, dans le cadre de la semaine antiraciste du 20e, alors je ne vais pas décliner tout le programme de la semaine antiraciste du 20e, mais on peut le trouver notamment sur Démosphère, où il y aura un débat, donc à 19h, les combats collectifs des sans-papiers du 20e, donc c'est à 19h à la FESTI, hein, à la Fédération des associations de solidarité et des travailleurs immigrés, c'est 58 rue des Amandiers, au métro Père Lachaise ou Ménilmontant. Voilà, donc on me fait signe que notre émission est à présent terminé. Donc merci beaucoup Nathalie.
Ah ben merci à vous et de la part de tous les jeunes, merci beaucoup et ils vont revenir en force, ne vous inquiétez pas.
Merci Lily.
Merci.
OQTF.
Merci Maya et Dominique et tout de suite les oreilles au du front. Excellente émission.
Attendez, RESF, sincèrement, c'est un mouvement qui tente, c'est quasi un mouvement quasi terroriste, parce qu'ils sont là pour faire des coups de pub qui poussent les gens à foutre le feu un peu partout.
RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.